Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 8 octobre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul sous les 122 000 dollars, tandis que Ether recule de 5%, 60 à 4 460 ce matin. On a toujours un BNB dans le vert, 28% sur la semaine. Il est venu chercher au-delà de 1 300 dollars hier, 178, 179 milliards de capitalisation. Donc aujourd'hui, le plus fou, c'est de se dire que on a un Binance au travers de son BNB qui est valorisé deux fois le market cap, par exemple, d'un Coinbase aux États-Unis. Une correction qui, malgré tout, est pas mal suivie sur l'intégralité de ce top 50 avec du moins 5 à moins 10. On peut vérifier également que les mêmes coins sont en train de se prendre un peu la sauce avec le World Liberty Financial à moins 10%, moins 11 pour Ethena, moins 10 pour WorldCoin, moins 10 également pour Zcash, c'est le cas de Pudgy Penguins. Et on clôture le top 60 avec Bonk et Official Trump à 1,5 milliard de capitalisation. Et c'est quelque chose qui a son importance ça, en ce moment. Pourquoi? Puisqu'on a la sensation en effet qu'autour des fameux 4000 milliards de cap, alors plus ou moins 100, 200 milliards, eh bien pour l'instant le marché crypto n'arrive pas à reprendre complètement son souffle ou du moins à se déployer, et c'est la problématique à laquelle on est confronté depuis quelques mois, quelques trimestres avec un gold et une IA qui du côté du marché américain et de la tech font les aspirateurs à liquidité, et aujourd'hui on n'arrive pas à passer à l'étape supérieure. Et quand on sait à quel point on marche un peu sur des œufs pour cet automne 2025 sur la fin de cyclicité de 4 ans qui pour l'instant on est obligé de la prendre en considération tant qu'elle n'est pas révolue et que peut-être un jour on aura des marchés qui vont agir un peu différemment, notamment depuis janvier 2024 avec l'introduction de ces fameux ETF qui ont été un départ rocambolesque et il n'y a que des superlatifs extraordinaires pour le qualifier, tant même du côté de la TradFi, ils sont choqués sur ce départ des ETF. Donc, c'est le meilleur départ d'ETF d'histoire de la finance. C'est quand même à noter. Et d'un autre côté, comme on le verra en ouverture de cette analyse technique tout à l'heure, on a un gold qui est en train véritablement de verticaliser 4000 dollars l'once. Même on les a dépassés ce matin. Donc, bien entendu, ce n'est pas forcément le moment opportun pour commencer à s'énerver sur le gold de notre côté. Mais on espère vivement qu'on va avoir une rotation et qu'on aura un peu des capitaux qui viendront affluer du côté crypto, tout en ayant toujours cet état de fait en tête que c'est pas l'immense majorité des alts qui vont pump, il y aura des dossiers qui seront choisis, et aujourd'hui on peine à avoir un petit peu cette liquidité additionnelle, cette prise de risque, on est plutôt sur un marché qui joue défensif, et le tout avec des ATH de tous les côtés quand on regarde du côté des États-Unis. Donc le problème à court terme, ça va être si on venait à avoir une correction sur le S&P 500, sur la tech, sur Nvidia et tout ce qui va bien, que d'un seul coup le marché se dit ok, on a pricé ça pendant des trimestres et des trimestres positivement, mais peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin, eh bien je me demande quel impact ça pourrait avoir du côté des crypto-monnaies. Au niveau des infos, on part avec un chart qui représente donc tous les cycliques bottom et top du S&P 500 depuis 1945. Vous avez toutes les dates avec la durée moyenne, le gain total, combien de temps ça a pris par rapport aux premières années, 1, 2, puis la troisième année, les corrections, enfin c'est plutôt intéressant. Je m'attarde pas là-dessus aujourd'hui puisque par la suite je vous en reparlerai très prochainement pour essayer de voir justement si en 2026 on risque d'avoir un shoot multimarché, chose qui sur le papier a l'air de vouloir se dessiner en tout cas pour l'instant. Le gold qui est en train de réaliser sa meilleure année depuis 1979 en est désormais à plus 51% sur l'année 2025, on va voir comment elle va se clôturer, mais c'est assez dingue de se dire que là on a un gold qui est vraiment en train de faire quelque chose qui défraie un peu la chronique, et surtout c'est à se demander qu'anticipent les marchés en fait en termes de risque en se positionnant autant désormais sur les métaux précieux et surtout sur un gold qui est complètement vertical. Donc bien entendu sur les fins de mouvement comme ça il y a un peu de FOMO, il y a tout le monde qui achète ce qui brille, il y a tout le monde qui achète ce qui monte, et d'autant plus quand c'est des frénésies comme ça où on n'a pas le temps justement de se positionner. Et de notre côté, on se pose la question en effet de que recherchent les marchés aujourd'hui en termes de risque, en termes de ratio ajusté. C'est le fameux ratio de Sharpe par rapport à la volatilité également. Et c'est ce qui fait que même au niveau des fonds de gestion, j'ai l'impression depuis 2020, ils sont un peu décontenancés quant à l'interprétation qu'ils pourraient avoir justement de cette volatilité exacerbée. Toujours du côté du S&P 500, on a un nouveau crypto index qui sera lancé avec 15 crypto-monnaies et 35 crypto-related stocks, c'est-à-dire des sociétés qui seraient liées de près ou de loin à tout cet univers des cryptos. Donc ils sont en train petit à petit de lancer des produits dérivés et pour l'instant pas plus pas moins, mais c'est vrai que ça permet aussi de faire rentrer de la liquidité certes, mais attention même du côté de Wall Street de pas commencer à faire ce que nous malheureusement on a fait avec beaucoup trop d'altcoin du côté du marché crypto, c'est-à-dire trop fragmenter la liquidité. Le CAC 40 qui récupère les 8000 points, mais depuis mai, comme le remarquait Mac Zaccardi du côté de Twitter, on est flat, hein, on est aussi entre les 7600 et les 8000 points, donc un CAC 40 qui ne fait pas grand chose depuis ce printemps. Le BNB donc a dépassé les 1300 $ comme on l'a vu tout à l'heure et qui désormais s'affiche sur le top 3 du podium, juste derrière Bitcoin qui est à 2500 milliards et Ether autour de 565, donc peut-être un peu moins ce matin puisque en effet on a entamé une petite correction à court terme. N'hésitez pas, vous avez la vidéo avec Onchain Sapiens The Block Insider numéro 4 pour décortiquer un petit peu ce qui se passe au niveau du comportement des participants quand on observe la blockchain. Toujours pas d'euphorie sur Coinbase puisque le rang est 225 sur la progression notable de plus 58 places la veille, donc c'était il y a deux jours même, et un inflow du côté de Bitcoin de 1,20 milliard sur la journée donc de lundi si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez fou de se dire que en ce moment on a comme ça des journées à plus d'un milliard d'inflow. C'est ce qui fait aussi que, on va le voir dans un instant, on a la Bitcoin dominance qui est en train de remonter, etc. Et on se pose toujours la question sempiternelle de se dire quand est-ce que peut arriver l'alt-season et de ne serait-ce que voir dans un premier temps Ether de nouveau avoir la rotation qu'il avait eue autour de cet été. Un post anonyme qui était remonté par Goku, alors le calcul est faux ici au niveau des jours, mais c'était plutôt marrant par rapport à la date qui avait été donnée, donc en 2023, où il prédisait tout simplement que le prochain Bitcoin ATH serait le 6 octobre 2025. On a fait un nouvel ATH autour de cette date. On va croiser les doigts, bien entendu, pour que ça ne soit pas l'ATH ultime de ce cycle. Une prédiction de prix intéressante de Van Eck par rapport au marché crypto, mais surtout au Bitcoin et à sa capitalisation. Pour eux, d'ici à 5 à 10 ans, la capitalisation du BTC pourrait atteindre autour de 13 000 milliards, soit pile poil la moitié des 26 000 milliards que capitalise le gold aujourd'hui. Et donc, je me suis un petit peu penché sur les chiffres à ce niveau-là. Et c'est intéressant de se dire que quand on prend en considération un Bitcoin autour de 125 000 aujourd'hui, 644 000 $, donc qui donnerait ces fameux 13 000 milliards dans 10 ans, donnerait un rendement autour de 18% par an pour les 10 prochaines années. Ça devrait être réparti à peu près de l'ordre de plus 30, plus 40% sur les 3, 4, 5 prochaines années, c'est-à-dire à 2030. Et ensuite, il continuera inexorablement à diminuer en termes de volatilité au fur et à mesure que sa capitalisation, elle, augmentera jusqu'à atteindre un jour une stabilisation, le fameux cycle de plateau, lors duquel, pendant plusieurs années, il ne se passera en apparence plus grand-chose. Donc ça, plutôt que d'agiter le drapeau un peu sur les réseaux sociaux de tous ces grands gourous qui vous diront « oui, en 2030, le Bitcoin sera à 1 million et dans 10 ans, il sera à 10 millions et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tout le monde sera riche main dans la main et le monde ira bien ». Voilà, je préfère me baser sur des données mathématiques et des données tangibles sur lesquelles actuellement on peut s'appuyer. Et ces datas, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est que, hormis le fait qu'on ait soit un signe noir, c'est-à-dire un cataclysme, je vous donne un exemple, le quantique qui viendrait casser quelque chose au niveau de la cryptographie ou de la blockchain, ou bien un fait, on va dire, beaucoup plus macro-centré mondial de type Troisième Guerre mondiale, tant que ça, ça n'arrive pas, c'est-à-dire des extrêmes extrêmes, eh bien, on devrait avoir en effet plutôt un scénario médian au niveau du développement de la blockchain, de la crypto et du Bitcoin. Et donc, quand on observe sur plus d'une quinzaine d'années de vie du BTC désormais, en effet, sa volatilité tend à se casser au travers du temps. Et aujourd'hui, on parle d'un Bitcoin à 2500 milliards. Peut-être que demain, on aura un Bitcoin à 3000, ou peut-être que lors du bear market, il reviendra à 1000-1500 milliards pour par la suite, comme ça, continuer d'accumuler. Donc, dans tous les cas, on devrait, en effet, dans les prochaines années, en se basant sur un historique d'une quinzaine d'années et des rendements qui ont l'air de vouloir être au travers du temps dégressifs, sur des rendements rendement qui devrait être de cet ordre-là. Bien entendu, plus on se prononce sur cette fourchette de prix longtemps à l'avance, plus en fait, en termes de percentile, la projection va être comme un énorme entonnoir. En gros, pour vous la faire courte, on peut avoir un scénario ultra pessimiste où dans 10 ans, on a un prix inférieur au prix d'aujourd'hui pour Bitcoin, c'est-à-dire bah, finalement, ça n'a été qu'un feu de paille. Ils se sont rendus compte au niveau des ETF que ça ne prenait pas au niveau de leurs clients. Et voilà, le joujou est cassé et dans 10-15 ans, finalement, on est passé à autre chose, notamment peut-être avec l'IA, le quantique et tout ce qui va bien. Le scénario médian, ça serait quelque chose de l'ordre de 300, 400, 500, 600 000 dollars peut-être à 5-10 ans, avec une progression linéaire qui petit à petit, bien, de la même façon qu'on a fait l'escalier sur ce cycle, on est quand même d'ores et déjà sur x8 sur ce cycle, 15 000 à 125 000. Si on va à 150 000, on sera sur un x10. Là, quand on regarde comme ça sur une projection à 10 ans de l'ordre de plus 18% par an pour atteindre dans 10 ans les fameux 644 000 dollars, ça ferait un x5, x6, je crois, quand on avait regardé la dernière fois, sur 10 ans. C'est-à-dire là, on a fait x8, peut-être x10 si Bitcoin fait une dernière poussée sur seulement 2, 3, 4 ans de temps. Et là, on parle d'une optique où en 10 ans, on ferait bah, voilà, à peu près x5. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération de notre côté sur quand nous, notamment récemment, on me disait encore en commentaire que les personnes, les particuliers ne viennent pas au marché crypto pour faire un simple x5, entre guillemets. Et bien là, on risque de faire x5 si c'est ce scénario neutre, médian, qui se propage pour une dizaine d'années pour les cryptos et pour le Bitcoin sur 10 ans. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte du fait que, oui, les rendements dont on a bénéficié précédemment sur le marché crypto, en tout cas sur les grosses capitalisations, ne seront plus les rendements qu'on aura justement dans 5 ou 10 ans. Après, bien entendu, on peut avoir différents scénarios qui viendront se greffer à ça, plutôt positifs, plutôt négatifs. Mais en tout cas, j'essaie de vous donner justement la projection de ce que pourrait être une médiane qui a, sur le papier, pas mal de chances de se réaliser. On clôturera avec deux petites infos. Donc, c'était le sondage en l'état actuel de la phase de marché crypto, à combien s'élèvent vos détentions en cash stablecoin. Vous avez été 43% sur 1500 votants à répondre 0%, 34,5% à répondre 10 à 30%, 11,7% à répondre 40 à 60% et 70% et plus, vous êtes moins de 11%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'en effet, pour 77-78% d'entre vous, eh bien, vous êtes entre 0 et 30% en stablecoin. Donc j'espère vivement que cette fin d'année va nous donner ce qu'on veut, parce que pour l'instant quand même, ça me semble assez aventureux au vu justement du calendrier qui est pas mal avancé. Après peut-être qu'aujourd'hui, hein, tout le monde est suffisamment éduqué pour savoir exactement quoi faire, que faire, et surtout peut-être que vous avez un horizon de temps qui est beaucoup plus lointain, ce qui est tout à fait louable et logique sur le marché crypto. Donc peut-être 5 ans, 10 ans, enfin voilà, il y a des gens vraiment qui font du DCA sur Bitcoin, peu importe le prix de BTC et sur plusieurs années. Donc ça, c'est tout à fait une logique qui, pour l'investisseur long terme, peut se tenir et on ne peut que vous encourager dans tous les cas à prendre le marché crypto comme ça pour 5 ans ou pour 10 ans, puisqu'on a vu, hein, même étude à l'appui, que quand même on rentrerait sur un top de marché au mauvais endroit, au mauvais moment, premièrement, ce qui va sauver la performance au long terme, c'est de faire du DCA, notamment dans les phases ultra baissières, lors des bear markets. Et deuxièmement, c'est au bout de 3,3 ans précisément que le portefeuille redevient positif, même si on était rentré sur un top du marché en une seule fois. Donc ça aussi, ça sera peut-être pas toujours vrai, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était à peu près ça les statistiques. Pour terminer, ça s'adresse plutôt aux hauts revenus par rapport à la flat tax en France. On parle beaucoup de cette fameuse flat tax qui pourrait arriver à 36%. En tout cas, le gouvernement aimerait faire des propositions qui iraient dans ce sens, mais actuellement, elle existe déjà à 37,2. Et en effet, c'est la fameuse CDHR avec la contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle prévoit pour 2025, pour les personnes seules dépassant le seuil de 250 000 euros ou 500 000 euros pour les couples pacsés mariés, une majoration forfaitaire de 20% au lieu des 12,8% auxquels viennent s'ajouter les fameux 17,2% de prélèvements sociaux. Donc cerise sur le gâteau, ça sera aux contribuables concernés de se rapprocher de l'administration fiscale en décembre 2025 afin de régler la note. En cas d'omission, d'ici à juillet 2026, le fisc viendra taper à la porte de ses fortunés, entre guillemets, pour leur rappeler de verser la différence majorée d'une amende de 20% sur le total dû. Il appartient donc aux personnes concernées qui ont des patrimoines ou des revenus en 2025, voire 2024 pour 2025 du coup, de s'auto-évaluer, que ça soit immobilier, bourse, crypto, dividendes, intérêts, et de se rapprocher tout simplement de l'administration fiscale pour payer cette taxe de 3-4% additionnelle. Et pour clôturer sur le sujet, donc cette contribution qui devait être exceptionnelle est déjà prévue dans les propositions de budget pour 2026, et on en reste là, sinon après ça va déraper. Le gold, donc 4030 $ l'once, on le laisse finir sa verticalité. Et est-ce qu'à partir du moment où on a ce truc qui viendra à retracer, on aura des capitaux qui rentrent sur la crypto? En tout cas, pour l'instant, on a du côté des autres métaux précieux, que ça soit le silver, que ça soit le palladium, ainsi que le platine que j'ai pas affiché ici, et eh bien voilà, ça continue de suivre. Bien entendu, on n'est pas du tout sur l'action de prix qu'on peut observer du côté du gold, mais ça a le mérite d'exister. Il y a peut-être une session rattrapage aussi sur certains autres métaux précieux, mais il faut, je pense, étudier un tout petit peu le sujet. Attention également, le VIX rebondit légèrement, 17, la zone de polarité est plutôt autour de 18-19. On va voir si on n'a pas une accélération sur cet automne. On a les momentum, les oscillateurs qui sont en train de croiser positif, donc peut-être gros retour de volatilité pour les States avec des indices qui sont sur ATH. Donc vous vous doutez bien que si on a un retour de volatilité sur des ATH, ça va pas être pour aller faire d'autres ATH, c'est plutôt pour des corrections, et des fois on ne sait pas à quel point elles peuvent être marquées. C'est pour ça que je vous dis vraiment là sur cette fin d'année de vous prendre par la main et de faire attention à ce que vous faites, que ça soit pour la crypto ou pour le reste. Le dollar, comme on l'avait pressenti la dernière fois, qui est bel et bien en train de nous valider un double point bas qu'il était venu faire autour de 96 points, on est quasi à 99. Ça c'est bon pour nous, pourquoi? Puisque quand on regarde du côté notamment du fameux WPEA et du CW8 d'Amundi, alors certes on est en train de ralentir au niveau justement du Nasdaq, du S&P, etc., puisque hier on a clôturé légèrement dans le rouge, moins 0,38 et moins 0,55, bien que ce matin les futurs soient légers dans le vert, mais ça nous a permis de venir faire un nouvel ATH sur les cotations qui ont été faites pour le World, pour le S&P, etc., en euros, du côté des PEA français notamment. Donc on a enfin, à retardement certes, un nouvel ATH pour le CW8, pour le WPEA, et on voit là aussi que à peine après avoir atteint justement cette zone, c'est peut-être d'ores et déjà en train de coincer. Le S&P 500, pas plus à dire. Les 6750 et des brouettes, on a un RSI qui est très très haut, on a un MACD, ça fait des semaines et des semaines qu'il est en train de perdre de sa superbe en termes de momentum, tandis que le cours lui a continué de progresser. Donc là, aujourd'hui, je vous mets les moyennes mobiles. D'ailleurs, je vous ai pas montré tout à l'heure sur le gold, mais c'est assez fou de se dire que une simple moyenne mobile 20, aujourd'hui, c'est sous les $3500 l'once, et une moyenne mobile 200, c'est 2300 $ l'once pour le gold. Donc imaginez un peu la descentada le jour où ça arrive. Et pour le S&P 500, un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est 6300 points. Et après, on a la 50 à 6000, la 100 autour de 5600 et la 200 autour de 4900, c'est-à-dire le support plus ou moins des 4008 long terme. Donc c'est là où tout va se jouer pour 2026, à vrai dire. Est-ce qu'on va avoir un énorme yo-yo où on vient chercher tout simplement la médiane de range ici autour de 5006, 5008, allez, peut-être moyenne mobile 50 qui sera défendue à 6000, ou est-ce qu'on revient chercher un peu une correction larvée comme on l'avait eu en 2022, et quelque chose qui serait beaucoup plus sournois et qui reviendrait travailler plutôt autour de 4800, 5000 points pour le S&P. Là, ça ferait très très mal. Le crypto total, comme on le disait en introduction, qui peine à tout simplement s'extirper durablement des 4000 milliards, on est à 4100 ce matin. On voit qu'à chaque fois, la liquidité, ici, on a des mèches hautes, donc 4150, 4200 et quelques, ça ne passe pas, et on n'a pas envie de voir maintenant à l'automne donne, des mèches hautes commencent à se faire pousser systématiquement, un RSI qui n'arrive pas à franchir les 66 à 70, un MACD qui est en train de croiser plutôt bear. Donc vraiment, je ne sais pas trop quoi en penser hein, de cet automne. Ça fait pas mal de temps que j'essaie aussi de vous dire que bah, dans tous les cas, quand on a fait 15 000 à 125 000 sur Bitcoin, quand bien même en termes de gestion du risque, vous jouez 125 à 150, est-ce que ça vaut le coup de rester pleinement exposé comme tous ces gens qui sont à 0% en stablecoin? Voilà, je me pose quand même pas mal la question. La dominance des stablecoins, USDC, USDT face au total qui latéralise, qui est toujours pas mal cloisonné autour de cette zone de 0.06, et là pareil, on a plutôt la sensation que c'est en train de se poser plutôt que de partir complètement vers le sud, ce qui retranscrit plutôt pas mal l'incertitude à court terme. Le crypto total 2, ça fait pas mal de fois aussi que dès qu'on passe la tête à 1700 milliards, eh bien ça ne passe pas. Quand on regarde au long terme comme ça le macro, on se dit ok, ce truc est prêt à passer et on va avoir une grosse poussée, on devrait avoir une alt season, mais pour l'instant ça n'arrive pas. Et même quand on regarde du côté du marché américain, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le Russell. On fait un nouveau point haut au niveau des low cap américaines et ça ne passe pas. Donc est-ce que c'est quelque chose qui sera délayé dans le temps à 2026, 2027 ou que sais-je, le temps justement qu'on purge un petit peu les excès et les carabistouilles de l'IA, de la tech, etc. Au final, si ça venait à ne pas arriver maintenant, l'alt season, les low cap américaines et tout ce qui va bien, ça sera quelque chose qui sera ben, tout simplement déplacé dans le temps et peut-être même que une fois qu'on aura fini de purger, que ça soit en 2026 ou peu importe, ça nous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus assaini et qui permettra d'être un peu plus porteur pour les alcools slash les low cap américaines autour de 2027, 2028 ou la prochaine itération véritable où on aura les taux qui se seront détendus pour les États-Unis. D'ici là, on aura très certainement des taux qui seront revenus à leur stade nominaux et ensuite on aura quelque chose d'un peu plus soutenu. Aujourd'hui, on l'a toujours pas et je me pose la question de si on va avoir cette étincelle justement sur cet automne. La dominance du BTC autour de 59%, donc en rebond depuis les 57, pas plus pour l'instant. Et tandis que Bitcoin, en effet, hein, nous a fait un nouveau point haut à 126K, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Et pareil, dès lors qu'on passe la tête à 120, 125, etc., on a vraiment à chaque fois cette liquidité qui est prise et qui repousse derrière. La moyenne mobile 20 avait été défendue autour de 110, 111. On a la 50 aujourd'hui à 100 000 tout pile. Donc ça, ça serait un peu vraiment la démarcation finale quelque part hein, pour la zone de bear market. La 100 aujourd'hui est à 79 000 et la 200 long terme autour de 53, quasi 54. Donc ça aussi, ça nous donne une bonne indication de là où on pourrait atterrir dans un futur bear market. ETH dominance qui se bataille avec son support des 13%. Donc on était venu très très bas hein, en avril 2025, 7 points. On a rebondi de quasi x2, voire un petit peu plus, même on était proche des 15%. Donc un Ether qui là aussi ben, devra retrouver la voie des ETF puisque c'est ce qui avait permis de le turbo alimenter et de le faire passer rapidement de cette zone sous les 1400 à quasi 5000 qui a été repoussée récemment. Là, d'un point de vue technique et chartiste, on a le gros support qui a été défendu des 4100 approximativement et on est désormais dans ce qui pourrait s'apparenter à un petit bull flag ici. Donc j'espère vivement là aussi que Ether ne va pas nous faire une énième carabistouille comme il nous l'a fait plusieurs fois sur ce cycle, justement dû au fait que les oscillateurs pour l'instant nous disent qu'on est plutôt sur une perte de momentum. Au niveau des Treasury Company, pas plus pas moins, on a Hive qui nous a fait une très très belle poussée récemment, donc on avait franchi les 3$, on a à 6$, ça pousse très très vite quand on parle des Treasury Company, puisqu'il y en a certaines qui sont pas super capitalisées, et d'un autre côté, bah, comme on l'a vu la dernière fois, notamment avec AltBG, c'est difficile d'aller se positionner sur des sociétés comme ça, qui nous font des amplitudes de plus 6000 à la hausse, moins 85 à la baisse alors qu'on est en plein bull run, entre guillemets, puisque petit à petit on se demande où il est le bull run justement, et MicroStrategy qui voilà, n'arrive toujours pas à passer 328$. C'est pareil, je pose légitimement la question pourquoi ce truc n'est pas en train de pump au moment où justement Bitcoin est en train de faire un nouvel ATH. Ça laisse quand même se poser pas mal de questions pour la suite hein, pour les Bitcoin Treasury Company. Action américaine, c'est AMD qui se fait la part belle avec cet investissement donc de OpenAI autour de 100 milliards de dollars si je dis pas de bêtises, mais pareil, il y a pas mal de voix dissonantes au niveau de l'IA qui commencent à dire « Ok, l'argent tourne un peu en circuit clos, tout le monde se fait pump les uns avec les autres, Google, Microsoft, Meta, on a OpenAI au milieu, on a Nvidia de l'autre côté, TSMC, AMD, voilà, ça essaie de propager un petit peu et aux founders et au silicone et à tout ce qui va bien au niveau des chipsets, des cartes, des data centers. On a même une rivière qui petit à petit vient abonder très très loin sur ceux qui fournissent justement de l'énergie et tout ce qui peut avoir attrait justement au secteur de l'IA, même en toute petite ramification. Mais tôt ou tard, là aussi, ils vont se rendre compte que les projections qu'ils s'en font justement pour les 5-10 prochaines années sont peut-être pas aussi réalistes que le temps que ça prendra dans la vraie vie à se matérialiser. Et je pense que c'est là où ça va commencer à coincer. Action française, on a le luxe qui continue de reprendre avec un Kering qui, depuis ses points bas d'avril à 150€, est désormais à 309. On est très très loin de l'ATH puisqu'il se trouvait autour de 800 balles. Donc malgré tout, c'est plaisant de se dire que petit à petit, le bottom est en train d'être fait. C'est le cas aussi sur Louis Vuitton, donc LVMH, où on avait le point dur long terme 440€ qui a été défendu. On est à 560€ aujourd'hui au contact de la moyenne mobile 50. Et donc la prochaine zone se trouverait plutôt quelque part entre 600€ et autour de 640-650€, ce qui laisse de belles marges de progression. Là aussi, hein, comme d'habitude, voilà, c'est des secteurs qui sont en somme toute particuliers, qui sont cycliques, avec de très belles envolées, de très grandes corrections. Donc comme d'habitude, faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit et surtout, ayez des convictions de ce dans quoi vous investissez. Ah, que j'aimerais vous dire que les altes vont monter et qu'ils sont beaux et qu'ils sont forts, mais pour l'instant, ça n'est toujours pas le cas. Donc on se contentera malheureusement de continuer d'observer ce que va nous faire à la fois le Bitcoin, ce que va nous faire la dominance, ce que vont nous faire là à court terme maintenant de suite les États-Unis. Si les États-Unis se mettent à corriger, je vois pas dans quel monde ça se passera positivement pour le marché crypto. On a des choses encore et toujours qui continuent d'être porteuses. On l'a vu avec le BNB, on l'a vu avec Hyperliquid, on l'a vu avec AVAX récemment qui nous avait fait un très beau pump. Mais à chaque fois, on a la sensation que les participants à ce marché sont tellement traumatisés du passé ou tellement veulent juste récupérer leurs billes, soit en moindre perte, soit en léger gain, que de suite, dès qu'on a plus 20, plus 30, plus 50, ça vend immédiatement et on n'arrive pas à développer véritablement un mouvement long terme qui nous permettrait vraiment de prendre une grosse respiration positive sur le marché crypto. Et tout ça est très très bien retranscrit hein, par un crypto total qui reste collé littéralement un peu comme une moule à son rocher autour des 4000 milliards. Est-ce que les 4200 milliards seront le top final pour ce cycle pour 2025 ou est-ce qu'on aura la force sur cet automne d'aller chercher au plus profond de nous sur ce marché crypto les fameux 5000, 6000, etc. C'est là toute la question. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve ce week-end. Ciao, ciao.